notre cœur pour dire Seigneur, ta parole est ce dont nous avons besoin. Êtes-vous d'accord avec cela? Ta parole, c'est ce dont nous avons besoin. Je me suis rendu compte cette semaine, en analysant, en réfléchissant, en lisant la parole de Dieu, que nous avons un gros problème. C'est que très souvent, on se laisse distraire. Beaucoup de choses peuvent nous distraire. Beaucoup de choses peuvent attirer notre attention et à certains moments nous amener à un manque de vigilance. Il y a certaines choses qui deviennent une habitude et je dirais même une mauvaise habitude. Pourquoi ? Parce qu'elles nous amènent loin de l'essentiel. Je crois qu'on a tous besoin de dire « Seigneur, aide-nous à retrouver la juste attention. » Et j'ai eu à cœur de préparer une série de messages sur le thème « Ne vous laissez pas distraire ». Alors certains pourraient se dire « Ça y est, le pasteur, il va nous parler des téléphones portables. » Vous savez, on n'a pas besoin forcément d'un téléphone portable pour être distrait. Il suffit juste de commencer à penser à ce que vous n'avez pas fait avant de venir. Non ? Et là, ni vu ni connu. Mais il y a d'autres choses qui peuvent nous distraire. Et j'aimerais, par un ensemble de partages, communiquer avec vous et ensemble, dire Seigneur, aide-nous à ne pas nous laisser distraire. Alors le thème général, c'est ne vous laissez pas distraire. Et ce matin, j'aimerais parler de la vigilance. Soyons vigilants. Une première lecture en Colossiens chapitre 1, les versets 10 au verset 20. Certes, c'est des textes que nous lisons régulièrement, mais qui ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Attention, dit le texte, marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tous à fait persévérants et patients. Avec joie, rendez grâce à Dieu, au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'entre tous les premiers, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui la plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Avant de prendre la Sainte-Seine ce matin, je pense que c'est bien de se rappeler certaines choses qui pourraient en réalité nous écarter de notre relation avec Dieu. On pourrait prendre la Sainte-Seine même en étant distrait de ce que nous faisons, d'une manière mécanique, habituelle. À tel moment, on sait qu'il y a ça, à tel moment, il y a ça, à tel moment, il y a ça. Mais est-ce que Dieu peut, est-ce qu'il a le droit de bouleverser un peu les choses ? Est-ce que Dieu peut faire autrement que comme nous, nous le voyons ou nous le pensons ou nous le croyons ? Dieu n'est pas limité ni dans ses méthodes et encore moins dans sa puissance. Mais nous, parfois, frères et sœurs, on n'est plus dans cet émerveillement de voir Dieu agir de différentes manières. Pourquoi ? Parce qu'on tombe dans une forme de routine spirituelle. On aimerait que Dieu fasse toujours les choses de la même manière. Seigneur, j'ai prié, donc je suis guéri. Alors, je ne dis pas que c'est faux. Mais comment Dieu va te guérir ? Ça devrait t'amener à dire, Seigneur, je suis émerveillé de ta manière d'agir. Jamais j'aurais pu imaginer une chose pareille. Et aujourd'hui, il y a plein de choses, frères et sœurs, excusez-moi, qui nous ont fait perdre cette étincelle qui devrait être dans les yeux de chaque enfant de Dieu. Cette joie, ce bonheur de dire, je cours vers la maison de mon Seigneur, parce que je sais que je vais être émerveillé par sa gloire, émerveillé de sa splendeur, émerveillé de la manière que Dieu a de faire et d'agir. Ce matin, je partageais au groupe de chant juste une pensée avant qu'on prenne du temps dans la prière pour préparer ce culte. Et je leur parlais de ce texte qui nous dit dans le livre de l'Exode que la nuée les accompagnait la journée et la colonne de feu pendant la nuit. Et ils devaient marcher jour et nuit. Nous, parfois, frères et sœurs, on limite la manière où Dieu peut faire les choses. On se dit déjà, la nuée, c'est pas mal, Seigneur. Mais la nuée dans la nuit, qu'est-ce qu'elle produit ? Elle cache la lune, cache les étoiles, on ne voit rien. Et en général, on se prend un caillou dans la chaussure. Mais Dieu avait prévu la colonne de feu. Parce que le but de Dieu, c'est qu'on marche jour et nuit. Après, comment Dieu fait, excusez-moi, et à quelle heure il allume le feu et il éteint la nuée, c'est pas mon problème. C'est quoi ma responsabilité ? De marcher jour et nuit. Et surtout de bien veiller à rester sous la nuée pendant la journée, pas prendre un coup de soleil, parce que des fois on s'éloigne de Dieu, on se prend un coup de chaud. On peut se brûler sérieusement. Et on s'éloigne de la colonne de feu. Et d'un coup, on s'égare. Et d'un coup, tout est noir. On ne voit plus rien. Et on dit, Seigneur, mais comment est-il possible que je n'ai plus la même vision qu'avant ? Parce que tu t'es éloigné. Alors, dans le texte que nous venons de lire, il est question pour nous de ne pas manquer de vigilance. Puisqu'il dit marcher. Il y a 4 axes de travail. Je lis dans ce texte, 4 points qui nous encouragent, frères et sœurs, à travailler pour plaire au Seigneur. 4 points pour apprendre à plaire en tout point de vue au Seigneur. Premier, c'est marcher. Marcher, c'est de l'effort. Il y a différents types de terrains, différents obstacles, différents degrés de niveau de montée, voire de descente. Et en tout cela, il est question pour nous d'apprendre la persévérance et la patience. Faut-il de la persévérance et de la patience quand on doit marcher ? Êtes-vous en marche ? Deuxième chose, porter du fruit. C'est du travail de longue haleine, non ? Et encore une fois, ça aussi, c'est une manière de Dieu de nous amener à la persévérance et la patience. Seigneur, je voudrais voir du fruit. Vous savez, on installe un arbre et le jour d'après, on aimerait manger des fruits. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, non ? C'est juste ou pas ? Et nous, on voudrait que dans notre vie, parce qu'on l'a décidé, d'un coup, on porte un fruit. Mais le Seigneur aimerait que nous soyons capables aussi de travailler pour qu'un fruit se produise. Regardez la nature, elle nous enseigne d'une manière incroyable. Avant que le fruit soit là, il y a tout un processus. Et ce processus, elle ne peut pas être brusqué. Il est important de savoir dire, Seigneur, fais ton œuvre. Seigneur, mais tu vois, je t'ai prié tellement de fois déjà pour cette personne. Seigneur, il n'y a plus rien à faire. Je passe à autre chose. Et vous savez, ce n'est pas comme ça qu'on va porter du fruit. C'est dans la persévérance. Amen. Et aussi dans la patience. Il est question de grandir dans la connaissance. Ça veut dire chercher, méditer, questionner, apprendre. Et là aussi, encore une fois, ça travaille quoi ? Persévérance. patience. Il est question de devenir puissant à tous égards. La puissance en Christ ne fait pas équipe avec notre puissance charnelle. Ce n'est pas ma puissance. Pour que la puissance de Christ puisse se manifester dans ma vie, j'ai besoin d'éliminer tout ce qu'il ne peut pas s'associer à sa puissance. Dieu ne fera pas de mélange. Ce n'est pas une question de faire une nouvelle potion, hein, et de dire « c'est mon ministère ». Vous savez, moi je me dis toujours, le ministère c'est Dieu qui nous le donne, quel qu'il soit. Le service, c'est Dieu qui nous le confie, quel qu'il soit. Et dans ce que Dieu nous confie, il attend que nous soyons fidèles selon sa volonté. Si nous faisons par nos propres forces, que peut-il se produire? Vous connaissez l'histoire de cet homme qui était connu, réputé pour être un homme très fort. Samson. Qui pensait, et il disait, je m'en sortirai. Et il dit la parole de Dieu qu'à un moment, Dieu retira son onction. Et là, Samson n'avait plus de force. Alors certes, Dieu ne se repent pas de ses dons. Mais Dieu peut retirer son onction. Et à un certain moment, ce que nous pensons être un service pour Dieu peut devenir juste une fonction. On peut être des fonctionnaires sans finalement être sous l'onction de Dieu. Et en effet, c'est l'onction de Dieu qui fait toute la différence. Alors dans ce texte, il est question pour nous de dire, Seigneur, aide-nous. Alors vous savez, Dieu ne nous demande pas l'impossible. Ce que certains pourraient se dire ce matin, persévérance et patience pour marcher, pour porter du fruit. Oh, je ne vais jamais y arriver. Mais je trouve magnifique, parce que verset 12, il nous dit « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. » C'est lui qui nous rend capable. Alors ce matin, si tu comptes encore sur tes forces pour devenir persévérant ou persévérante, patient ou patiente, peut-être que c'est là qu'il faut changer les choses et dire « Seigneur, je ne veux plus compter sur moi-même parce que ma patience, elle peut durer 5 minutes, voire 6, les jours de grands efforts. Et si la clim est allumée, si je ne chauffe pas trop, hein ? Mais Seigneur, il y a des jours où la patience n'est pas là. » Alors il est question aussi pour nous, frères et sœurs, d'aller plus loin dans cette réflexion pour que le Seigneur nous aide à ne pas nous laisser avoir, à ne pas nous laisser distraire. Parce qu'en effet, la distraction, c'est celle qui va nous éloigner du Seigneur. Il dit dans le verset 13, « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Car, verset 16, « En lui tout a été créé, dans les cieux, sur la terre, visible, invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Il n'y a pas de véritable et durable délivrance si l'on reste dans le royaume du péché. Je ne peux pas vivre une véritable délivrance si je demeure sur le terrain du péché. Il y a une logique, non ? Et des fois, nous, on voudrait vivre la délivrance, mais en restant là où on est, dans nos vieilles habitudes. Et après, peut-être même qu'on ose dire au Seigneur, mais pourquoi tu ne me délivres pas ? C'est que ce n'est pas si mal alors. C'est que j'ai le droit. C'est que je peux. Et parfois, vous savez, on se prend le droit de faire ce qu'il ne faut pas. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10, il est écrit... 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Il y a écrit toujours « ni ». Il fait des catégories. Et il nous dit clairement que ces choses-là ne pourront pas hériter du royaume de Dieu. si on demeure dans un de ces, excusez-moi, de ces boîtes, on est déjà enterré. On a besoin de dire, Seigneur, sors-moi de cet ancien royaume dans lequel encore l'ennemi a de l'emprise dans ma vie. Seigneur, délivre-moi de ce qui ne te convient pas. On peut, frères et sœurs, demeurer dans les mêmes raisonnements et les mêmes comportements de notre ancienne nature, notre caractère, nos principes, nos projets, nos propos, nos mobiles, et après dire « je suis une nouvelle créature ». Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Qui j'essaye de convaincre? À qui je suis en train de raconter des belles histoires? À moi-même ou à Dieu? Parce que vous savez, Dieu ne va pas regarder à la forme. Hein. Que vous chantez debout, assis ou couché, ça ne change rien. Que vous priez assis, debout, couché, ça ne change rien. Ce que le Seigneur va regarder, c'est le cœur. Dire ton cœur, il est dans quelle position? Debout, comme un i, c'est de l'orgueil, ça ne va pas. Est-ce que ton cœur s'incline? Est-ce que ton âme s'incline? Est-ce que ta vie, est-ce qu'elle s'incline devant Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin de la rédemption et le pardon? Ce sont deux choses inatteignables si l'on demeure dans le royaume de Satan. Il faut être clair. Alors peut-être que ça peut déranger ce matin ce que je suis en train de dire. Mais vous m'excusez, je n'ai pas à parler de ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas. Je vais vous annoncer ce que la Bible elle dit. Et je crois que ce que la parole de Dieu me dit, c'est que la rédemption et le pardon ne sont que pour ceux qui acceptent à un certain moment de mettre fin à leur vie de péché. Et on ne peut pas se dire sauvé continuant à vivre dans la débauche. On ne peut pas se dire sauvé ou chrétien si on continue à avoir des propos de la cupidité, de l'ivrognerie, si on est de ceux qui insultent, de ceux qui essaient toujours d'accaparer pour eux-mêmes, vous savez, un peu pique-sous. Mais on peut accaparer tout, pas seulement les sous. Hein. On peut être de ceux qui sont jaloux, ils veulent tout. Ils veulent tout contrôler, tout faire, tout savoir, tout connaître, tout juger, tout dire, tout diriger. Ça, c'est aussi être un accapareur. On peut vouloir conduire la vie des autres, mais moi je dis, Seigneur, garde-nous. Parce que c'est déjà tellement compliqué de bien conduire sa propre vie. Et quelle responsabilité de vouloir conduire la vie des autres. Le véritable sens des mots et des mots qui ont du sens. La rédemption est la délivrance d'un mal ou de l'esclavage par le versement d'un prix ou d'une rançon. Je ne peux pas vivre une véritable rédemption si à un certain moment je n'accepte pas d'être délivré du mal ou de l'esclavage. Et pour que cela se fasse, il faut que Christ paye le prix. Par mes efforts, c'est nul d'avance. Christ a donné sa vie, dira la parole de Dieu, en rançon de beaucoup, n'est-ce pas? Pourtant, les hommes pécheurs sont esclaves du péché. Jean chapitre 8, verset 34, il dit « Quiconque commet le péché est esclave du péché ». Alors, il parle des hommes, mais croyez-moi, ça vaut aussi pour les femmes. Ou pas qu'on se dise « Oh, ces hommes hein !» Ça aurait été mieux et plus simple que faire que des femmes. Il n'y aurait pas eu de péché dans le monde. Relisez l'histoire. La responsabilité, elle apporte les deux, hein, que ça soit clair. Pour eux, pour ceux qui vivent dans le péché, la mort est la seule perspective possible. Romains 6, 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la... Ah. » Le salaire du péché, c'est... Si je demeure dans le péché, qu'est-ce qu'il m'attend? Moi, je ne veux pas vous raconter de belles histoires ce matin. On pourrait faire un message, tu sais, vous savez, ce message qui caresse dans le sens du poil. Vous êtes tous beaux. Vous êtes tous magnifiques. Vous êtes tous forts. Amen. Alléluia. On rentre à la maison. Eh bien, je vais vous dire, on n'aurait pas besoin d'avoir un lieu. On n'aurait même pas besoin d'ouvrir la Bible pour se dire des belles histoires comme ça. Et le jour qu'on sera devant le Seigneur, vous et moi, mais plus moi, je vais devoir répondre de dire pourquoi je n'ai pas dit la vérité. Et je suis certain que tôt ou tard, vous diriez, mais qu'est-ce que c'est ce pasteur qui ne nous dit pas la vérité ? Comment je peux entendre que mon cœur est bon si en réalité je ne vis pas selon ce qui est la règle que la parole de Dieu me dit ? Il y a un prix qui a été versé, c'est le sang de Christ. Éphésiens 1:7, il nous dit en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Tout à l'heure, nous allons prendre le pain et le vin qui nous rappellent le prix qui a été payé. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas se laisser distraire et prendre le pain et le vin de manière indigne, que Dieu nous garde. Mais la parole de Dieu nous invite, frères et sœurs, à avoir une action particulière. La réponse du chrétien à ce don gratuit est une vie au service du Christ qui ne se soumet plus à l'esclavage du péché. Galates 5:1 dira « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés ». Demeurez donc ferme et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. C'est pour la liberté qu'il nous a. Amen. Seigneur, aide-nous à rester libres. On chante ce chant libre de nos chaînes. Mais si de temps en temps on secouait un peu nos mains et nos pieds, peut-être qu'on entendrait encore un petit gling, 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 gling quelque part. Parce qu'il y a des choses qui sont restées encore accrochées. Ah non, pasteur, ce n'est pas possible. On est tous bons. On est tous gentils. Je l'espère. Il est question pour nous d'accepter de vivre la régénération. Mot employé pour décrire le changement radical et définitif opéré par le Saint-Esprit dans l'attitude globale d'une personne. J'ai pris ça dans le dico, hein. Je ne suis pas en train de vous écrire un dico et la définition. Hein. Mot employé pour décrire le changement radical et définitif opéré par le Saint-Esprit dans l'attitude globale d'une personne. Régénération, ça veut dire métanoïa, nouvelle mentalité. Mon frère, ma sœur, si tu penses comme avant, si vous pensez, agissez comme avant, cette nouvelle mentalité n'est pas là. Ah ouais, je ne suis pas sauvé. Alors, je ne suis pas en train de te dire que tu n'es pas sauvé, mais tu n'es pas régénéré. Quand quelqu'un vient à Christ, il vient tel qu'il est, on est d'accord. Il passe de la mort à la vie, ok, mais après, il y a une œuvre de régénération qui doit s'accomplir, c'est un changement. C'est une transformation et cela, c'est un processus qu'on doit accepter de vivre. Parce que si je me cramponne à mes positions personnelles, il n'y aura jamais rien qui change. Vous savez, on a nos habitudes. Vous voulez voir ? Qu'est-ce que vous prenez au petit-déj le matin ? Café. Eh bien, à partir de demain, ma sœur, tu ne prends plus du café. Ah, on a du mal avec les habitudes. Moi, si vous m'enlevez le café, vous mettez une tasse de thé, je préfère pas déjeuner. Hein. C'est quoi cette tasse d'eau chaude ? Comment faire à boire de l'eau chaude comme ça ? Bon, chacun son truc. Mais il y en a qui aiment du thé. Qui c'est qui aime le thé le matin ? Femme à thé. Repends-toi. Et prendre autre chose, ça peut bousculer un peu nos habitudes. C'est trop dur, c'est trop ceci. On ne le digère pas, ça ne passe pas. Moi, quand je vois des fois, quand je suis en déplacement, je vois des personnes le matin manger du saucisson, des œufs. Je me dis, waouh, il doit avoir un estomac embêtant, le gars. Comment c'est comme ça le matin, qu'est-ce qu'il mange le soir ? C'est le sanglier. Mais on a chacun nos habitudes. Et certainement que lui, quand il nous voit faire nos petites tartines, beurre, confiture, il nous dit, mais qu'est-ce qu'il mange avec ça ? Il ne va pas tenir longtemps, non ? Et nous, on se cramponne. On m'a appris comme ça, je fais comme ça. C'est comme ça. Un jour, un jeune homme rencontre une jolie fille, tombe amoureux. Il déclare sa flamme. Ils se marient. Ils commencent leur vie commune. Et pour faire plaisir à sa femme, il ramène du poisson à la maison. Et il ne comprend pas pourquoi sa femme, elle coupe le poisson en morceaux. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Ben, je ne sais pas. Moi, ma mère, elle m'a toujours appris comme ça. Tu coupes là, tu coupes là, tu coupes là, paf. Et ce garçon, il était quand même gêné. Il dit, oh, c'est pas comme ça qu'on le cuisine. Moi, ma mère, elle ne l'a jamais cuisiné comme ça, le poisson. Il y a un truc qui ne colle pas. Vous connaissez ce type de débat, non? Maman ne faisait pas comme ça. Et finalement, il revient chez sa belle-mère, une dame très gentille, très, très gentille. Elle lui dit, belle-mère ou belle-maman, comme vous préférez, j'aurais une question à vous poser parce que je ne comprends pas la recette. Il dit, quand je ramène du poisson, votre fille, ma chère épouse, ma chère tendre, ma dulcinée, elle coupe le poisson et elle y va. Et il dit, mais parce que vous lui avez appris à faire comme ça. Et la maman se tourne et dit, mais c'est normal. Moi, j'ai une petite poêle, donc je dois faire avec. Ça pour dire que parfois, frères et sœurs, on fait les choses sans se poser les bonnes questions. Et on se dit, mais ça a toujours été comme ça. Mais est-ce que tu es sûr que c'était juste de faire comme ça? Est-ce que tu es sûr que c'est bon de faire comme ça? Alors, ce n'est pas parce que, un, il a une habitude, que tout le monde doit faire la même chose. Je me rappelle de cette histoire où il y avait un film un peu connu, je ne vais pas citer le titre, où le gars, pour montrer qu'il était fort, il gobait des œufs frais le matin. Il avalait l'œuf comme ça. Et il y en a qui ont essayé, ils ont vu que c'était dégoûtant. Non ? Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient prendre des forces. Mes frères et sœurs, moi je crois qu'il faut sortir de ce mode de raisonnement, hein, et se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends dans ma vie? Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie? Est-ce qu'on sait ce qui doit changer dans notre vie? Je suis certain qu'on doit avoir quelques indices. Moi, je sais que ma mère, elle ne loupait pas l'occasion de me dire les indices. D'ailleurs, il m'a dit, le jour où tu me présentes celle qui va être ta femme, je vais lui dire toute la vérité. Alors, quand je lui ai dit que c'était Elisabeth, j'ai dit, Elisabeth, prends-toi le temps. Maman, elle a des trucs à te dire. Elle l'a fait, hein. Donc elle a assumé la charge en connaissance de cause. Et avec le temps, Dieu a commencé à changer mon cœur. Je ne dis pas que c'est fini, hein, il y a encore du boulot. Hein. Dieu a commencé à changer le sien et il s'est servi de l'un et de l'autre pour nous travailler, pour parfois mettre les mots sur ce qui ne va pas dans notre vie. Ce n'est pas par manque d'amour, c'est justement l'amour fait qu'on devrait être capable de se dire les choses d'une certaine manière, par contre. Hein, on est d'accord. Et t'es pas gentil. Eh ben, dis comme ça, toi non plus. Non ? Mais je crois que le Seigneur aimerait, frères et sœurs, nous amener à quelque chose. 1 Pierre chapitre 1, verset 3, 7, il est écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillissez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, le test, le crible, passe au tamis, n'est-ce pas? Bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire, d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Si aujourd'hui on devait passer au tamis, est-ce qu'il y a encore des choses qui vont rester dans le tamis? Vous savez, Pierre, avant de commencer son ministère, quoi qu'il pensait être déjà arrivé, m'aimes-tu? Ouais, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Troisième fois, Pierre était quand même un tout petit peu étonné. Jésus lui dira, Satan a demandé à vous passer au crible, au tamis. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Je pense que ce jour-là, Pierre a dû quand même essayer de trouver un caillou pour se cacher. Mais vous savez, on a tous le même problème. Il n'y a pas que Pierre. Et dire, Seigneur, transforme ma vie. Alors, je voudrais nous encourager, frères et sœurs, à ne pas être distrait. Christ, c'est l'essentiel. On pourrait se laisser distraire parce que les autres font des choses et nous, on se dit, mais pourquoi nous, on ne peut pas le faire ? Je veux être comme les autres. Non, ne te laisse pas distraire. Tu ne dois pas être comme les autres. Tu dois être comme Christ. Oui, mais ne te laisse pas distraire. Mon frère, ma sœur, peu importe l'âge que vous avez, ne vous laissez pas distraire. L'ennemi est très fort à distraire, très fort à mettre de la confusion, mettre du doute. Mais la parole de Dieu nous encourage. Il dit, le texte, il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça veut dire qu'il est le commencement, tout existe par lui et tout lui est soumis. Il est la tête de l'Église. Donc, frères et sœurs, demeurons humbles et soyons rassurés. Vous savez ce qui me rassure dans le ministère ? C'est que ce n'est pas moi qui commande. Parce que le jour où un homme se pense être celui qui commande à l'Église, il n'est plus à sa place. Le but du ministère, vous savez, c'est quoi ? C'est servir l'Église. Nous avons été donnés pour servir l'Église. Mais celui qui commande, c'est qui ? On n'est pas à l'unisson. Soyons clairs, l'Église n'est pas une démocratie. Oubliez. C'est une théocratie. Ça veut dire que c'est Dieu qui commande. On est d'accord ? Donc, que ce soit Emmanuel, Pierre, Philippe, Jean-Louis, j'en sais rien. J'essaie de citer des noms qui n'existent pas forcément dans l'Église. Si vous vous sentez appelé, il n'y a pas de référence directe. Le but, c'est comme on dit toujours, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est toi qui commandes, Seigneur. Et je crois qu'il n'y a que ce que Dieu a décidé qui va s'accomplir. Autrement, ça veut dire que la tête a perdu le contrôle. Loin de moi de penser une chose pareille. Il est le commencement et la fin. C'est lui qui dit top, départ, et c'est lui qui dit stop. Alpha, oméga, top, stop. C'est ni vous, ni moi. Et l'œuvre que Dieu veut accomplir, il va l'accomplir avec nous et sans nous. Le Seigneur peut faire ce qu'il veut, quand il veut, et si nous, on ne rentre pas dans ses projets, mais il ramènera quelqu'un d'autre qui accomplira le travail qu'on aurait dû accomplir. Et qui c'est qui perd la bénédiction ? Qui, à un certain moment, lui dira dans le ciel, pourquoi tu n'as pas œuvré, puisqu'il était question d'éprouver ta foi. Il n'est pas question d'éprouver ta force. Il n'est pas question d'éprouver ton regard. Est-ce que tu as un regard qui gèle le regard des autres ? Vous savez, ces regards intenses qui font peur. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu me fais peur. Je dis, ah bon ? Ouais, tu as un regard et une voix. Je dis, Seigneur, comment tu veux que je te parle avec la voix qu'il m'a donnée, le Seigneur. Je ne peux pas te parler avec une autre voix. Imagine une petite voix sur un bonhomme comme moi. Ça va faire étrange. Détends-toi, tout va bien. Vous rigolez, mais je suis certain qu'il y en a certains qui ne viennent pas me voir, ni me parler, pas une forme de crainte, je ne sais pas laquelle et pourquoi. Moi, je n'ai pas le droit de vous dire ce que je veux. j'ai le devoir de vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Après, c'est votre responsabilité. Ce n'est plus la mienne. Mon frère, ma sœur, je t'ai dit ce que j'avais à te dire après. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. En lui habite toute la plénitude. Vous ne serez jamais satisfait sans Christ. Je voudrais dire ce matin, particulièrement à chacun de vous, je ne veux pas dire particulièrement aux jeunes, parce que vous savez, il n'y a pas d'âge pour faire des bêtises. On est tous capables de faire des bêtises, même à 90, 95, 100 ans. OK ? Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, je voudrais vous dire ce matin qu'on ne peut pas connaître la satisfaction, on ne peut pas se sentir satisfait, on ne peut pas sentir la plénitude sans avoir Christ dans notre vie. Il n'existe pas de réconciliation sans Jésus-Christ. Le message et l'œuvre de la croix sont insubstituables. Ce matin, nous avons la grâce de pouvoir nous approcher du pain et du vin. Et je voudrais inviter les frères qui sont de service de Sainte-Seine à s'approcher pour le service, s'il vous plaît. Mais je voudrais ce matin prier. Prier pour chacun de nous pendant que les frères préparent les éléments. Demander au Seigneur sa grâce pour que ce pain, ce vin que nous nous apprêtons à prendre demeure pour nous une manière de rester attentif. Si l'ennemi essaye de faire de manière d'attirer notre attention ailleurs, le Seigneur nous a laissé ces symboles pour nous recentrer, pour amener à nouveau nos regards à la croix, pour nous examiner nous-mêmes. Et ce matin, nous avons le devoir, mais aussi le bonheur de pouvoir encore le faire. Et dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne pas m'écarter de l'essentiel. Seigneur, aide-moi à ne pas perdre, Seigneur, ce regard sur toi et ne pas laisser mon regard être amené loin au point de ne plus être émerveillé par ta bonté. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Dieu de gloire. Seigneur, ton sacrifice à la croix pour nous, Seigneur, est quelque chose qu'aucun homme aurait jamais pu accomplir. Seigneur, tu as accepté de payer un prix que nous aurions jamais pu régler. Seigneur, et quand je vois ton regard, quand je vois ton amour, quand je vois ta miséricorde, Seigneur, envers nous, je ne peux que te dire, Seigneur, ta grande grâce, ta grande bonté me dépasse, Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne d'autant de bonté, autant de miséricorde. Seigneur, aide-nous, aide-moi, Seigneur. Seigneur, avant de m'approcher de ce pain, de ce vin, je voudrais te demander encore, Seigneur, toi qui nous as accordé un avocat qui puisse plaider notre cause. Seigneur, et si nos yeux se sont détournés un moment, si nos cœurs se sont éloignés, si nos actes, Seigneur, n'ont pas été conformes à ce que toi tu désires, pardonne-nous, Seigneur, encore ce matin. Viens nous laver, nous purifier, nous sanctifier par le sang de Jésus-Christ. Et Seigneur, aide-nous à marcher d'une manière digne pour que nous soyons de ceux qui portent du fruit et du fruit qui demeure. Amen.